Nous allons commencer d'abord par parler un petit peu de l'auteur que nous avons choisi. Il s'appelle donc Antonio Tabucchi et qui est né en 1943 à Pise, enfin exactement à Vecchiano. Alors quelques mots sur cet auteur qui est quand même un des meilleurs auteurs italiens, disons, du siècle. Il est mort en 2002. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres traduits dans le monde entier. Il a reçu plusieurs récompenses internationales, dont le prix Médicis étranger, le Viareggio. Et il a une particularité, une originalité, disons, il est tombé amoureux de l'écrivain portugais Pessoa, qui veut dire d'ailleurs personne, un grand écrivain, et il l'a traduit entièrement en italien. Donc il est aussi très reconnu comme cela. Et ce qui lui a donné le goût du Portugal et le goût de Lisbonne, il a dirigé l'Institut culturel de Lisbonne autant que l'Université de Sienne, il faisait donc la navette. C'est quelqu'un aussi qui est connu pour avoir écrit une thèse sur le réalisme, et il a reçu le prix de la liberté d'opinion pour ses interventions dans la presse européenne, parce que c'était un homme fortement politisé. Marié à une Portugaise, Marie-Josée de Lancastre, il partagea son temps entre Toscane, Paris, Lisbonne et le monde entier, notamment l'Inde. Certains de ses livres ont été adaptés au théâtre et au cinéma. Alors je citerai particulièrement Pereira prétend que quelques-uns ici connaissent très bien et nous ont fait des analyses il y a quelques années de ça. Je me souviens de...
D'Angelo.
Ah oui, vraiment. Alors, Pereira prétend, c'est un livre qui a eu énormément de succès parce que le héros est devenu le symbole à l'opposition de Berlusconi. Donc, tout de suite, ça a marqué les esprits. Il y a aussi un autre qui est très connu qui s'appelle Nocturne indien, parce qu'il a été mis au cinéma par Alain Corneau. Et donc ce grand Tabucchi, ce grand auteur, est mort à Lisbonne en 2002 à l'âge de 68 ans. Alors on peut dire que c'est un des conteurs hors pair dans notre Italie contemporaine qui nous a laissé des récits absolument passionnants. Et nous avons choisi, Annick et moi, de vous lire une nouvelle extraite du recueil « Il gioco del rovescio ». Ce qui veut dire « Le jeu de l'envers », titre intrigant, hein, s'il en est. Parce que Tabucchi a l'habitude de se poser des questions sur l'identité. Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui se cache derrière les apparences? Constamment, il y a chez lui un questionnement existentiel qui sous-tend le déroulement de ses histoires. Sous-entendu, enfin le plus clair, c'est « Qui est-ce qu'on est sous le masque social ?» Alors, il a des chutes dans le conte que nous allons lire, évidemment, qui peuvent surprendre le lecteur, qui est placé devant une situation complètement inédite et renversante. Je pense que vous allez apprécier. C'est un talent très particulier qui mène cet auteur à décrire l'envers du décor, soit une image absolument différente de celle qui est présentée au début. Alors, le conte que nous avons choisi s'appelle « Paradis céleste », donc plusieurs d'entre vous l'ont probablement lu. La narratrice est une jeune femme issue d'un milieu populaire, mais aspirant à l'aisance d'une vie bourgeoise. Elle se retrouve propulsée dame de compagnie auprès d'une très riche famille bourgeoise, près d'un lac, probablement Sanremo. Elle aspire à ce monde raffiné, symbolisé par l'ikebana, qui est l'art de fabriquer des bouquets japonais, comme beaucoup le savent, et que pratique la maîtresse de maison, Madame Huppert, comme Isabelle. Au cours d'un dîner en compagnie des employeurs de son mari, ça vous verrez à la fin du conte, on comprend à quel commerce, je n'en dis pas plus, ce livre, ces hommes, et tout se renverse. Et on retourne à une autre image. Il dit toujours qu'il a été frappé, Tabucchi, parce que ce qu'il voyait, il a découvert que c'était quelque chose de tout à fait différent. Il en a fait l'expérience. Voilà. Alors le conte, vous avez ici la couverture du livre, est traduit par, très très bien traduit par une certaine Lise Chapuis. Nous commençons.
C'est parti.
C'est parti.
Jusqu'au jour où je fis la connaissance de Madame Huppert, je n'avais jamais entendu parler d'Ikebana. J'étais vraiment sur mes gardes cet après-midi-là et je m'étais préparée psychologiquement à dire beaucoup de petits mensonges dans le cas où cela me paraîtrait promotionnel. À cette époque-là, je considérais les petits mensonges comme une chose nécessaire pour paraître plus intéressante, pour échapper à la médiocrité. Et je m'entraînais à mentir d'un ton léger. Tout compte fait, je me trouvais plutôt convaincante quand je mentais, peut-être même plus que quand je disais la vérité. Mais, confrontée à une question directe, sans aucune référence, sans la moindre lueur de ce que pouvait être Ikebana, une personne, une chose, toutes mes dispositions pour le mensonge me firent cruellement défaut. Et je fus obligée d'admettre mon ignorance.
Pour l'entretien, Madame me reçut sur la terrasse. Elle était allongée sur une chaise longue en bambou, très austère, sans coussin, un de ces sièges du genre méditation yoga, et elle portait un ravissant kimono bleu pâle. Jusqu'au dernier moment, je m'étais demandé si j'allais mettre ma jupe plissée bleu marine avec un pullover rouge, style jeune fille de bonne famille qui fréquente le club de tennis, ou bien le tailleur de tweed noisette avec un chemisier beige. Finalement, je m'étais décidée pour le tailleur, mais je n'étais pas tout à fait sûre de mon choix, car la saison n'était pas vraiment idéale pour un tweed un peu épais comme celui-là. Cette année-là, en effet, un mois d'octobre éblouissant semblait vouloir prolonger sans faiblir un été qui avait été magnifique, et les tout derniers touristes flânaient encore en short sur les bords du lac, comme pour faire une dernière provision de soleil. Mais zut! Ce tailleur m'avait quand même coûté presque un mois entier de salaire. Et encore, je l'avais acheté en solde à la fin de l'hiver précédent. Et je n'avais pas trouvé jusqu'ici l'occasion de le mettre. C'était un tailleur Saint-Laurent, avec jupe-culotte et veste très épaulée. Style années 40, à large revers et double boutonnage. De coupe un peu masculine, quelque chose de super chic. Dans Vogue, Deborah Kerr portait exactement le même, appuyé à la balustrade sous la véranda de son ranch. Mais dans cette école idiote, qui est-ce qui aurait bien pu apprécier mon Saint-Laurent ? Mes collègues arrivaient le matin, attifés de manière épouvantable. Il ne leur manquait que le petit tablier de devant et les bigoudis sur la tête. Autant mettre mon tailleur Saint-Laurent pour cet entretien avec madame, il y aurait au moins quelqu'un pour l'apprécier. C'est du moins ce que je pensais. Je croyais ne pas me tromper.
Je vous le dis. Une villa comme celle-là, ça ne cadrait pas avec une de ces stupides créatures du genre femme de charcutier cossu qui avaient infesté les collines autour du lac avec leur petite villa digne de Disneyland et qui débarquaient à la galerie à la fin de l'été quand le propriétaire organisait une vente aux enchères sans précédent et emportait des croûtes à tomber raides d'horreur pour les accrocher au mur de leur demeure citadine. Il suffisait d'ailleurs de voir le portail de fer forgé duquel partaient deux rangées de cyprès bien droites, les tourelles tout ouvragées, style 1900, le jardin à l'italienne, la terrasse envahie par les bougainvillées. Et puis, Je pensais que, si l'on était un tant soit peu perspicace, une simple petite annonce sur le journal suffisait pour se faire une idée de la classe que pouvait avoir son auteur. Les offres d'emploi que je parcourais le samedi d'un œil avide étaient pleines de propositions vulgaires et insidieuses, ou dans les meilleurs cas, plates et banales, dans lesquelles la possibilité d'un avancement rapide cachait la misère des ventes à domicile de quelque encyclopédie pour gamins débiles. Ce n'était pas tous les jours que l'on tombait sur une offre d'emploi en secrétariat formulée ainsi: intelligence, discrétion, culture, français indispensable. Je jugeais que c'était là quatre qualités que je possédais de manière indéniable. Dommage que le directeur de l'école, affolé parce que je parlais de la Marra d'Esnouda aux élèves, et le propriétaire de la galerie, qui ne pensait qu'à plumer les dames de Varèse, ne s'en soit jamais aperçu. Tant pis pour eux.
Il paraîtra peut-être futile de dire que madame était charmante. Mais ça donne au moins une idée générale. Elle portait très bien ses 50 ans, si elle les avait. Mais si elle n'en avait que 40, elle les portait dignement. Je penchais cependant pour la première hypothèse. Elle avait les cheveux d'un blond si peu naturel qu'on les acceptait tout de suite tels qu'ils étaient. Car la fiction qui se donne pour telle est bien plus acceptable que la fiction qui se cache. J'avais comme ça toute une théorie sur les nuances de la fiction. Et Dieu merci, elle n'avait pas recours à la permanente. Je n'avais rien en principe contre la permanente, loin de moi cette idée, mais le fait est que mes collègues arrivaient à l'école avec des permanentes tellement minables que j'avais fini par détester ça. Madame engagea la conversation de manière très décontractée en français. Elle parlait évidemment français pour vérifier ma connaissance de cette langue, comme il était demandé dans l'annonce, mais dans ce domaine, je me sentais à l'abri de tout danger, grâce à Charleroi, même si je me gardais bien de le lui dire. Je ne fis aucun effort pour cacher mon accent belge prononcé, et pourtant, cela ne m'aurait pas été très difficile, c'était seulement une question de voyelles toniques et gutturales. Nous commençâmes par la littérature. Madame, de manière très discrète, s'informa de mes goûts, non sans m'avoir auparavant indiqué les siens pour me mettre à l'aise. C'était le Monterland de la Reine Morte, si humain, si émouvant, dit-elle. Et la mélancolie enchantée d'Alain Fournier. Pierre Loti n'était pas à négliger non plus, il fallait le redécouvrir. Ramuncho en particulier. Elle était sûre que tôt ou tard, quelqu'un allait le remettre à la mode. Oh, un critique américain peut-être. Les Américains avaient un flair indiscutable pour les repêchages. À dire la vérité, Loti me rappelait l'odeur de renfermé des salles de classe du collège Sacré-Cœur de Charleroi, où Pêcheur d'Islande était d'une rare lecture permise. Mais je fis mon possible pour approuver. J'avais mis 8 ans à effacer de mon existence le collège de Charleroi. Ce n'était pas les goûts de madame qui allaient me ramener à ses souvenirs. Oh, j'aurais pu faire dans le genre intellectuel en hasardant le nom de Sartre, dont j'avais lu une nouvelle horrible d'ailleurs. Mais je préférais m'avancer avec prudence et citer François Sagan. qui au fond avait tout de même quelque chose à voir avec l'existentialisme. Ensuite, je mentionnais Hemingway avec les neiges du Kilimandjaro. J'avais vu le film avec Ava Gardner. Et La Mousson de Lew Bromfield. Madame me demanda si j'avais vu Les Tropiques. Je dis que non, malheureusement. Mais que tôt ou tard, il faudrait que j'y aille. Il ne m'avait manqué que l'occasion. Ensuite, nous passâmes à la peinture.
Là, je me décontractais tout à fait. C'était mon domaine. Et si je mentis un peu, ce ne fut pas tant pour des raisons promotionnelles que pour embellir légèrement ce que je disais. Je dis que j'avais eu le diplôme des Beaux-Arts 2 ans auparavant, ce qui était vrai, mais que l'Italie était d'une petitesse incroyable. En effet, qu'est-ce qu'on offrait à une jeune artiste? Des remplacements dans un collège. Heureusement que je pouvais l'été laisser libre cours à mes goûts en travaillant dans une galerie d'art de la région. J'espérais de tout mon cœur, au moment où je disais cela, qu'elle n'y fût jamais entrée. Mais malheureusement, la galerie fermait à la fin de la saison et la ville retombait dans les ténèbres de l'inculture. Et alors, me voilà. Je pensais qu'était venu le moment des questions plus précises. Je craignais en particulier que Madame m'interroge sur mes compétences dactylographiques, compétences que je considérais comme indispensables pour une secrétaire. Les miennes étaient nulles. Les rares fois où je devais taper une lettre, en bas à la galerie, cela me prenait un après-midi entier. Je tapais avec l'index de la main droite seulement. Et après tant d'efforts, les résultats n'étaient pas les plus brillants. Madame, au contraire, ne semblait pas avoir la moindre intention de me poser des questions d'ordre technique. Elle paraissait avoir l'esprit exclusivement préoccupé par la peinture, et je ne me fis pas prier pour la suivre dans cette voie. Au début, nous parlâmes des jaunes de Bonnard, mais je ne sais plus à propos de quoi. Probablement à cause de la lumière de l'automne et de la tache dorée des châtaigniers que l'on apercevait sur les flancs de la montagne de l'autre côté du lac. Ensuite, je jouais tout en finesse et je m'orientais vers les fauves. On ne discutait pas Matisse, bien sûr, cela me paraissait évident. Mais personnellement, je sentais mieux Dufy. Le Dufy des marines, des géraniums et des palmiers de Cannes. Avec Dufy, dis-je, la joie de vivre méditerranéenne chante sur la toile. Et alors, eh bien, oui, ajoutai-je avec toute la désinvolture que me paraissait mériter la chose, j'étais allée à Paris spécialement pour étudier les fauves. Naturellement, je me gardais bien de dire que ce que je connaissais de Paris, car tout ce que j'en savais remontait à un voyage scolaire avec les bonnes sœurs, quand papa travaillait à la mine à Charleroi. Cela avait été une excursion de 4 jours, avec de petites haltes, casse-croûte et pipi, et puis tout le monde en voiture a chanté, en passant par la Lorraine, sous la férule de l'inflexible gaieté de sœur Marianne, qui, craignant les longs silences et les longues conversations, les uns comme les autres, source de mauvaises pensées, résolvait ce dilemme par l'allégresse d'une saine chanson. De Paris, je conservais l'atroce souvenir du musée de l'histoire de France au Panthéon, de mes pieds tout gonflés, et de mes premières règles qui étaient arrivées le 2e soir du séjour, après une mémorable marche à pied. Le dernier jour, sœur Marianne nous avait guidés dans une visite d'un quart d'heure au Louvre, juste pour nous mettre le nez sur Corot et Millet, et à la sortie, nous avions toutes été obligées de donner une petite participation pour l'achat d'une reproduction de l'Angélus, que sœur Marianne avait ensuite collé sur la lunette arrière de l'autobus. lors du voyage de retour. J'avais 13 ans, je me sentais laide, malheureuse et incomprise, et je passais tout le voyage à imaginer une vengeance terrible. Un jour, je devenais un grand peintre. J'avais un atelier dans le quartier latin. Sœur Marianne venait me supplier à genoux d'aller décorer de fresques le réfectoire du collège de Charleroi, où la grande artiste que j'étais avait commencé ses études. Et moi, je lui répondais d'un air hautain que ce n'était vraiment pas possible, parce que je devais préparer une exposition triomphale au Grand Palais. Paris me rendait hommage, le monde entier réclamait mes tableaux, et l'on disait que le président de la République en personne était intervenu.
Et l'Ikebana, dit madame, vous aimez l'Ikebana? Je répondis que non, décidément, je ne le connaissais pas. Je me sentais prise au piège et je choisis d'être sèche et catégorique. Quel dommage, dit madame. Mais cela n'a pas d'importance. Je suis sûre que vous apprendrez à l'aimer. S'il vous plaît, faites-moi passer la bouteille de gin et appelez Constance pour qu'elle me porte encore un tonique. Tout en attendant son tonique, madame m'interrogea d'un air distrait sur mes hobbies, me demanda si par hasard je m'intéressais au vin. Ah oui, très bien. Elle non, elle préférerait les cocktails. Mais monsieur, oui, son mari avait la passion des vins, en bon italien qu'il était. Bon, italien d'adoption, mais bien italien tout de même. Oh, les vins rares, bien sûr, elle aussi aurait aimé les connaître un peu mieux. Mais elle ne pouvait tout de même pas exiger de son époux qu'il lui donne des leçons. Il était toujours en voyage, toujours tellement pris par ses affaires. Pauvre chérie. Mais au fait, mon français était excellent. Je répondis que oui, effectivement, mon pauvre père avait eu mon éducation à cœur, et pourtant, il n'avait jamais une minute de libre, il était dans les mines. Il avait voulu pour moi une gouvernante française, bien entendu, et cette chère vieille Francine, je m'émus légèrement à son souvenir, qui m'avait presque servi de mère, était wallonne. C'était d'elle que je tenais cet indéniable accent belge qu'un temps j'avais détesté et que maintenant je trouvais charmant. Oh non, non, je n'étais pas orpheline de mère. Mais maman était si fragile, si délicate. Et puis, son piano ne lui laissait pas une minute de répit. Madame poussa le chariot des apéritifs dans ma direction et m'invita à me servir. Ainsi, l'école ne vous intéresse pas? Vous n'avez pas la vocation. Je dis que la vocation, je l'aurais peut-être eue, mais que j'avais mon diplôme depuis 2 ans et que j'étais encore obligée de faire des remplacements. Tout de même, j'avais presque 21 ans. Je me mis à expliquer ce qu'étaient les remplacements, chose que madame ignorait totalement. Et pour être concise, je dis que la semaine suivante, quand le professeur que je remplaçais aurait terminé son congé de maternité, le directeur me dirait que l'école m'était très reconnaissante de ma précieuse collaboration. Au revoir et merci. Et Dieu sait que les femmes enceintes ne poussaient pas comme des champignons. De nos jours, les gens réfléchissaient avant de faire des enfants. Avec le prix que coûtait la vie, ça se comprenait. Peut-être n'était-elle pas au courant des statistiques de la natalité en Italie.
Le crépuscule tombait sur le lac, et de l'endroit où nous nous trouvions, cela ressemblait à un tableau. et c'était bien autre chose qu'un dufy. De la terrasse, on dominait le jardin plein de cyprès et de citronniers, sillonné par la géométrie des haies de buis que délimitaient les allées de gravier. Le village sur le promontoire qui s'avançait dans le lac était déjà dans l'ombre, et sur les toits flottaient des bandes de lumière un peu floues, d'un bleu pâle. La dernière tache de lumière de la journée tombait sur l'embarcadère qui était en face du portail et sur les tourelles de la villa, d'un jaune chaud, bruni par le temps. Les hirondelles faisaient un vacarme merveilleux, rasaient le sol comme affolées. Madame était en train de m'expliquer qu'elle avait peur de beaucoup s'ennuyer pendant l'hiver, habituée comme elle l'était à Paris. Bon, elle ne pouvait pas dire qu'elle avait vraiment besoin d'une secrétaire, mais plutôt d'une compagnie. Oui, bon, de temps en temps, une lettre à certaines galeries suisses dont elle était cliente, et de petites choses de ce genre. Mais fondamentalement, ce qu'elle cherchait, c'était une personne de goût avec laquelle échanger des impressions, avec laquelle parler de choses intelligentes. Naturellement, elle ne me demandait pas de prendre une décision tout de suite. Je pouvais donner ma réponse le lendemain. Mais naturellement, je serais logée et nourrie. Et même, je pouvais, si je voulais, donner un coup d'œil à ce qui serait peut-être ma chambre. Elle appela Constance.
Pendant tout le reste du mois d'octobre, Madame fut occupée à la conception d'un ikebana non réaliste, un équilibre extrêmement délicat des nuances de l'automne. La base était un vase belle époque vieil or, une pâte de verre de galet datant de 1906 au col long et fin. C'est à moi que Madame laissa le soin de donner un titre à la composition. Toutes les compositions fantaisie devaient recevoir un titre parce que une des finalités de l'ikebana était justement de solliciter des noms, de faire en sorte que se concrétise en mots l'impression provoquée dans notre esprit par la composition. Ce qui me frappait le plus dans cette composition, c'était son cœur de lumière, dis-je. Et Madame décida que je n'aurais pas pu trouver un titre plus juste. À dire la vérité, je commençais à posséder une certaine compétence en la matière. J'avais littéralement dévoré Ikebana, l'art des fleurs, les fleurs et l'antique tradition japonaise, Ikebana et Haikai, et enfin la peinture japonaise, un livre magnifique sur papier brillant, plein de reproductions. Le soir, sur les conseils de Madame, je lisais Kawabata, qui était tellement zen de la première à la dernière page. Ce livre m'ennuyait à mourir, avec toutes ces bonnes femmes idiotes qui fixaient mélancoliquement des paysages hivernaux, mais je me gardais bien de le dire pour ne pas paraître matérialiste. Madame avait horreur du matérialisme, et Kawabata était un petit souffle qui caressait les plaintes de l'âme.
Avec mon salaire d'octobre, que Madame insista pour me payer intégralement alors que je n'avais pas commencé au début du mois, je m'achetais une veste en daim vert foncé qui me semblait absolument nécessaire et un ensemble pour sac à main en écailles rouges, poudrier, peigne et briquet. Avec l'argent qui me restait, j'achetais un très élégant nécessaire de bureau que je trouvais indispensable pour une secrétaire d'un certain niveau et qui contenait un minuscule coupe-papier en argent, un stylo plume laqué, une petite bouteille d'encre d'un bleu très vif et un papier à lettres avec les enveloppes assorties en très beau papier de riz jaune clair. il me sembla que ma chambre faisait ainsi plus intellectuelle. Je fis quelques petites modifications dans la disposition des objets. Je déplaçai la lampe de jade de la commode à la table qui était près de la fenêtre, posai à côté mes récentes acquisitions et obtins ainsi un véritable bureau. Pour compléter l'ensemble, je mis bien en vue les poésies complètes de Vittoria Aganor Pompili et La vie des abeilles de Maeterlinck que j'avais acheté chez un bouquiniste.
Début novembre, madame confia deux tâches qui tombaient à point pour mes acquisitions de papeterie. Nous avions reçu le catalogue d'une galerie de Zurich dans lequel étaient mentionnées deux estampes de Tamaro, sans aucune précision. J'étais chargée de demander des informations, les dimensions, les prix et éventuellement des photos. Ensuite, je devais m'adresser à une entreprise d'horticulture de San Remo pour qu'elle nous expédie des bulbes de fleurs indiqués sous la référence numérotant de son catalogue. J'écrivis à la galerie de Zurich une lettre concise et courtoise, élégamment calligraphiée sur mon papier de riz. Je demandais que l'on nous fournisse une réponse très détaillée, que l'on nous indique le prix en francs suisses et que l'on envoie au moins deux photos couleur format 16 par 24. Je faisais enfin miroiter la possibilité d'un achat immédiat dans le cas où les œuvres seraient bonnes. Et je signais mes sentiments les meilleurs, Lisabetta Rossi, Fini, secrétaire de Madame Huppert. Je me dis que rien ne m'empêchait de signer désormais des deux noms de papa et maman, associés par un trait d'union. J'étais bien la fille de l'un et de l'autre, après tout. Je n'utilisais pas des noms qui ne m'appartenaient pas. Je commandais à l'entreprise de San Remo, en même temps que les bulbes, une douzaine d'œillets bleus que j'avais vus sur le catalogue et qui m'avaient fasciné. Bon, l'œillet est une fleur simple et populaire. Il exprime la franchise et la sympathie. La franchise et la sympathie. Mais cette variété de serre d'un bleu vif qui tirait sur le volet, sur le violet, au bord des pétales tout frisés, était vraiment étrange. On aurait dit des fleurs exotiques et mystérieuses. Elles avaient quelque chose de l'orchidée, sans en avoir la froide vulgarité.
Dans les premiers jours de décembre, Monsieur Huppert arriva d'un long voyage en Côte d'Ivoire avec un magnifique cadeau pour Madame. C'était une statuette de pierre représentant un homme assis en tailleur qui tenait à la main un bizarre fusil de forme ancienne. Il expliqua que la sculpture de pierre est extrêmement rare en Afrique parce qu'elle exige une organisation artisanale qui n'est possible que dans certaines civilisations dotées d'une structure sociale relativement développée. Cette pièce, par exemple, provenait d'un peuple Mintadi du Haut-Congo et décorait les nécropoles anciennes. C'était une figure mortuaire de haute antiquité, comme l'attestaient déjà les chroniques du roi du Congo, Alphonse Ier, en 1514. Mais la chose la plus précise, pour moi du moins, c'était un bracelet que la statue portait au poignet, une très fine bande d'or ornée d'une rangée de minuscules diamants. Une splendeur. Ceci, toutefois, est une pièce moderne, dit en souriant M. Huppert, tout en le passant au poignet de sa femme. Je trouvais cela plein de délicatesse. Monsieur Huppert était un homme charmant, extrêmement aimable et un peu timide, et il se montra heureux que madame eût trouvé une compagnie agréable, qui rendait moins déprimante sa convalescence. Ce sont les termes qu'il utilisa. À part le jour de l'arrivée de monsieur Huppert, je dînais toujours avec monsieur et madame. C'était une habitude qui datait de mon entrée dans la maison et madame ne crut pas bon de la modifier. D'ailleurs, c'est moi qui m'occupais de la table, des fleurs. Tous les soirs, je composais un tout petit ikebana, simple et gracieux. Et du vin. Cette idiote de Constance était totalement dépourvue de délicatesse, bien qu'elle fût une cuisinière hors pair. Et ce n'était pas sur elle que l'on pouvait compter pour les choses de goût. Quant à Giuseppe, c'était déjà un miracle de le faire fonctionner avec sa veste rayée et les gants blancs. Il tenait son plateau comme il aurait tenu des cisailles. Mais il fallait être indulgent avec lui. Après tout, il avait été engagé comme jardinier seulement. Les conversations tournaient d'habitude autour de la passion de M. Huppert, à savoir le continent noir, pour lequel il éprouvait un goût qui confinait à l'idolâtrie. Son travail d'importateur de matières premières pour le compte d'importantes entreprises européennes l'avait amené en 10 ans de voyage à considérer l'Afrique comme sa terre d'élection. Et à l'entendre parler, l'Afrique semblait être encore le continent de Livingstone, de Stanley et de Savorgnan de Brazza. Quand M. de la Tour téléphona, j'étais seule à la maison. Monsieur et Madame étaient allés en ville pour faire des achats. Madame devait acheter la décoration de Noël. Et il m'avait confié la villa comme il le faisait désormais lorsqu'il s'absentait. Dans ce cas, je répondais au téléphone, signais les reçus d'éventuels recommandés, payais les fournisseurs et donnais à Constance les directives concernant le dîner. Plus que surprise, madame entra dans une grande agitation lorsqu'elle apprit l'arrivée de M. de la Tour pour le lendemain. Elle dit que c'était une catastrophe. Mon Dieu, nous étions complètement démunis. Et puis, venait-il tout seul ou avec madame de la Tour? Je ne savais pas. Mais bon sang, c'était fondamental. Il était tellement embarrassant de recevoir des hôtes de manière approximative. Et les de la Tour, justement. Oh, quelle idiote elle était de ne pas avoir acheté de fleurs en ville. Il n'y avait même pas de quoi faire un ikebana décent.
Le lendemain fut une journée fébrile. Le matin, madame essaya de composer un chinchai avec du pain et des feuilles de magnolia, mais elle trouva que le résultat était pauvre et ridicule, et elle le défit. Nous fûmes sauvés par l'arrivée inattendue des œillets bleus que j'avais commandés à l'horticulteur de San Remo. Je les avais presque oubliés, ils m'étaient sortis de la tête. C'est un fourgon de l'entreprise qui les livra en même temps que les bulbes. Ils n'avaient pas une couleur naturelle, certes. Un œil un peu expert le remarquait tout de suite. Je n'avais jamais compris si on leur faisait absorber le colorant par la terre ou si on le vaporisait sur les fleurs. De toute façon, ils arrivaient en parfait état, extrêmement frais. Une vraie providence pour nous. Madame et moi nous excusâmes auprès de monsieur. Nous espérions qu'il comprendrait. Ce jour-là, nous ne pouvions vraiment pas lui tenir compagnie pour le déjeuner. Nous mangeâmes sur le pouce, très rapidement, d'un sandwich accompagné d'un pamplemousse pressé, et nous nous attaquâmes tout de suite à l'ikebana. Nous choisîmes de donner dans le majestueux. À dire vrai, la composition n'était pas tout à fait orthodoxe, mais selon toute probabilité, Monsieur de la Tour n'était pas un spécialiste en la matière et nous nous accordâmes quelques libertés. Notre moribana était un peu tape à l'œil, avec ce plateau céladon d'un blanc laiteux. des fougères et la tache bleue des ciseliers au centre. Mais comme milieu de table, il avait une personnalité très forte, au point qu'il conditionnait le reste. Reste dont je dus me débrouiller toute seule, car madame se retira dans sa chambre pour se maquiller et m'abandonna aux affres du choix. J'optai pour une élégance discrète, sans rien de fastueux. Nappe de lin blanc, très simple. Porcelaine hollandaise du 19e, verre de cristal à pied. Je finis à 7 heures. Juste au moment où j'entendis les pneus d'une voiture crisser sur le gravier, je vis par la fenêtre que c'était une Bentley bleu marine avec chauffeur, mais je n'eus pas le temps de voir combien de personnes étaient assises à l'arrière. De toute façon, je n'avais pas une minute à perdre. Il me restait une petite heure pour me précipiter dans ma chambre et me donner un aspect décent, et j'étais épuisée.
Madame fut adorable en me présentant comme son artistique secrétaire, Mademoiselle Rossifini. Elle m'aida à trouver l'aisance dont j'avais besoin. N'allez pas croire que je me sentais gênée, mais un peu émue, si, ça je ne peux pas le nier. Et puis, les de la Tour n'étaient pas vraiment le genre de personne à vous mettre à l'aise, Madame de la Tour en particulier. Jeune, elle avait dû être splendide. Maintenant, elle cultivait le genre beauté austère, à la Grace Kelly, mais plus hautaine, plus froide. Sourcils très fins, cheveux blonds cendrés attachés sur la nuque, visage tiré des femmes qui font des séjours dans les cliniques suisses. Au contraire, les années donnaient un certain charme à Monsieur de la Tour, comme cela arrive parfois aux hommes qui ne sont pas vraiment beaux. Tempes argentées, rides et pattes d'oie autour des yeux, bronzage léger, yeux bleus, type von Karajan, mais en plus robuste, moins ascétique. Giuseppe entra, portant les cocktails d'avocat. Dans les coupes d'argent, le verre pistache de l'avocat coupé en dés et nappé d'une légère couche de glace pilée avec une goutte de ketchup avait un aspect magnifique. « Oh, une bagatelle !» dis-je en faisant semblant d'éluder les compliments, tout en montrant que je faisais semblant. « C'était la vieille Francine qui m'avait appris à les faire. » Papa aimait tellement les avocats. D'ailleurs, il adorait tous les fruits exotiques. Peut-être pour des raisons esthétiques. Il avait un terrible sens esthétique, papa. Un artiste? Non, non, il était dans les mines. Eh oui, un terrible sens esthétique. D'ailleurs, certains fruits exotiques sont un véritable plaisir pour les yeux, non? Un ananas, une papaye, une goyave, un avocat mis ensemble, ne font-ils pas à leur façon un ikebana? Un ikebana sans titre, voilà tout.
Et celui-ci, comment s'appelle-t-il? La question de Madame de la Tour nous prit à l'improviste. Une vraie douche glacée. Dans la hâte des préparatifs, dans l'agitation provoquée par cette arrivée imprévue, nous n'avions absolument pas pensé à lui donner un titre. Je ne dis rien, attendant la réponse de madame. Madame, elle, s'en tira avec élégance en se tournant vers moi pour m'inviter à parler. « Je vous en prie, ma chère, dites-le vous-même, » semblait-elle dire, « je ne veux pas vous enlever ce plaisir. » Je m'affolais, cherchant désespérément un titre à la hauteur de la situation. Les yeux de Madame de la Tour me transperçaient comme des aiguilles, sceptiques et inquisiteurs. « Paradis céleste, » dis-je. « C'est un moribana traditionnel, » continuai-je d'un seul trait. « Il exprime le plaisir qui naît dans l'âme des maîtres de maison à l'arrivée d'hôtes très appréciés. » Madame de la Tour abandonna enfin l'expression glaciale qu'elle avait eue jusque-là. Son visage tiré se détendit. Je dois avouer qu'elle me parut plus laide. Et s'ouvrit en un sourire affable. Elle était sur le point de céder. Elle fut définitivement conquise par Giuseppe, qui entrait avec le chariot. Le faisan rôti disposé dans le plat flambé était magnifique. Avant de me confier le chariot, Giuseppe enleva les plumes de la queue qui décorait le plat, déboucha le champagne et ouvrit le cognac avec un flegme impressionnant. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il dit « Monsieur de la Tour, une communication de Paris pour vous. » Il avait des qualités cachées, ce brave Giuseppe. Peut-être l'avais-je sous-estimé. Pendant ce temps, ces dames s'étaient liguées contre Monsieur Huppert à propos de la chasse. Partant du faisan, la conversation s'était étendue à la chasse en général, et Monsieur Huppert, assez imprudemment, avait avoué sa passion des safaris. Mais comment ? Madame de la Tour parlait du même ton détaché que d'habitude, mais elle était visiblement scandalisée. Abattre une gazelle, cette masse d'élan vital contenue dans la grâce d'un corps si fin, abattre cette merveille de la création, n'était-ce pas un crime, un délit contre nature? Monsieur Huppert essaya d'expliquer un peu mollement que dans les safaris, on n'abattait pas que des gazelles, ou pour le moins pas exclusivement les gazelles. Il invoquait pour sa défense le frisson du risque, l'homme opposé à l'animal. Il alla même jusqu'à citer Hemingway. Mais il n'avait pas l'avantage, loin de là. D'ailleurs, il était seul dans son camp. Quant à moi, je me gardais bien de donner mon avis. Cela me semblait risqué.
Monsieur de la Tour revint. Il semblait soucieux et se rassit discrètement, l'air absent. La conversation reprit sans entrain. Le moment de flamber le faisan était venu. Cela ranimerait un peu l'ambiance. « Hop là !» dis-je en tenant l'allumette de cheminée comme une torche. L'infidèle est condamné au bûcher, que justice soit rendue. Il me semblait que la plaisanterie n'était pas mauvaise, mais personne ne rit, je n'eus aucun succès. Mais à Dakar, vous n'avez pas pris les contacts dont nous étions convenus, demanda Monsieur de la Tour en fixant Monsieur Huppert droit dans les yeux. Monsieur Huppert sursauta légèrement, resta un instant silencieux comme embarrassé, but une gorgée de champagne.
Je vous expliquerai plus tard. Cette fois-ci, cela n'a pas été facile.
Je ne crois pas que cela soit nécessaire, répliqua Monsieur de la Tour. J'ai reçu de Paris une information très confidentielle, et vous savez quelle en est la source. Il parlait d'un ton sec, neutre, sans aucune espèce de courtoisie, comme s'il n'avait jamais vu Monsieur Huppert. Ce sont les Allemands qui ont conclu l'affaire, comme c'était en prévoir, ajouta-t-il. Maintenant, nous pouvons laisser vieillir tout notre stock.
Le cognac était en train de brûler gaiement sur le faisan. La petite flamme bleue grésillait pleine de promesses. La recette exigeait que l'on flambe pendant au moins une minute, mais cela ne dura pas aussi longtemps, car je n'avais pas mis beaucoup de cognac. C'était d'ailleurs mieux ainsi. Il me semblait que le moment était venu de passer aux choses sérieuses. L'œil avait eu sa part de plaisir, Maintenant, c'était au tour de l'estomac. Je découpai rapidement et appelai Giuseppe pour le service. Madame de la Tour prit une bouchée de blanc qui s'était cachée, ou qui était cachée, sous une truffe. Bon sang, elle suivait un régime draconien, la belle momie. Madame au père, sans doute pour ne pas gêner son invité, suivit son exemple. Quand Giuseppe me présenta le plat, je me demandais si je devais faire la même chose. Il y avait un haut de cuisse avec deux filets de viande de dimension fort réduite qui aurait pu convenir. De toute façon, après le dîner, je pourrais faire un saut à la cuisine. Mais l'idée me vint que Giuseppe et cette goulue de Constance risquaient de liquider les restes, trop contents que leur maître ait si peu d'appétit. Et je me servis un bon morceau de blanc. Et puis d'ailleurs, je n'avais pratiquement rien mangé depuis le matin. Le sandwich de midi n'avait fait que m'ouvrir l'appétit. La journée avait été stressante. Et au fond, tout le mérite de ce faisant me revenait.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte des problèmes que nous cause votre manque d'à-propos, dit encore M. de la Tour du même ton. M. Huppert dit qu'il s'en rendait compte. Bien, reprit M. de la Tour, alors, essayez de convertir cela en dollars. Sans doute M. Huppert fit-il mentalement la conversion, car il pâlit. Sa fourchette resta en l'air avec la truffe qu'elle portait, et son front s'emperla de sueur. Monsieur Huppert, dit d'un ton coupant Monsieur de la Tour, vous vous rendez compte que nous vous payons pour vendre? Si vous cessez de vendre, nous cesserons de payer. Je bénis Giuseppe qui entrait avec le dessert. C'était une mousse d'ananas glacée et garnie de cerises confites, un chef-d'œuvre de Constance que je connaissais par cœur et dont je raffolais. Quand Giuseppe me servit, je lui murmurai de porter d'autres champagnes. J'en avais mis deux bouteilles au frais une heure auparavant, en cas, et de faire vite. Ensuite, je me levai pour allumer la cheminée, non sans faire remarquer que ce soir, j'avais vraiment l'impression d'être une vestale, ou une pyromane, comme ces messieurs-dames préféreraient. Madame Huppert rit gaiement, suivie par Monsieur de la Tour. L'atmosphère était nettement en train de se détendre. Je pensais qu'il n'y avait rien de tel qu'un bon feu de cheminée pour calmer les nerfs. Et puis, Giuseppe entra avec le seau à glace et le Dom Pérignon, entouré d'une serviette blanche. Impeccable. Le vieux Giuseppe se comportait vraiment en grand maître. Il fit sauter le bouchon et remplit les coupes. Vous vous rendez compte, dit encore Monsieur de la Tour à Monsieur Huppert, mais il avait maintenant une voix plus détendue, plus conciliante. Vous vous rendez compte, j'espère, que si vous voulez reconquérir le terrain, il ne vous reste plus maintenant que la X21. D'ailleurs, si vous aviez suivi mes conseils, vous auriez conclu l'affaire l'an dernier.
Monsieur Huppert ne semblait pas encore tout à fait remis de cette brève passe d'armes. Il était encore pâle et je m'aperçus que ses lèvres tremblaient légèrement. Il répondit les yeux baissés sur la défensive. Ah, cet idiot de Monsieur Huppert! On aurait dit qu'il faisait exprès de gâcher complètement une soirée qui jusque-là s'était maintenue dans un équilibre des plus précaires. Mais ce n'est pas possible, bredouilla-t-il. Comprenez, monsieur de la Tour, il ne s'agit pas d'un caprice de ma part. Je veux dire, c'est quelque chose... Comme je m'y attendais, M. de la Tour perdit tout à fait son calme. Le sang lui monta au visage et les muscles de son cou se tendirent. Avec son entêtement ridicule, M. Huppert avait réussi à gâcher la soirée.
C'est quelque chose?
dit Monsieur de la Tour en essayant de se contrôler.
C'est quelque chose de quoi ?
Disons que cela provoque des altérations cellulaires, dit Monsieur Huppert.
Oh !
Murmura d'un air désolé Monsieur de la Tour.
Le progrès comporte des risques, cher Monsieur Huppert. Vous ne croyez pas ? La civilisation se paie toujours, d'une manière ou d'une autre. On ne passe pas impunément de l'âge des cavernes au réfrigérateur.
Monsieur Huppert ne disait rien, fixant obstinément la mousse d'ananas qu'il avait laissée. Il y eut un long moment de silence, troublé par le seul crépitement du feu dans la cheminée. Monsieur de la Tour reprit un ton conciliant, presque avec bonhomie. On aurait dit qu'il s'adressait à un enfant qui a fait une bêtise sans le faire exprès.
Et d'ailleurs, laissez-moi vous dire que ce n'est pas avec vos méthodes que l'on conquiert le marché. Loin de moi l'idée de vouloir vous apprendre votre métier, mais tout de même, il y a des produits que l'on ne peut prétendre placer en les accompagnant d'un certificat de garantie. Combien d'autres fois avez-vous porté à ces pauvres gens les merveilleux produits de notre société sans inscrire dessus de traité d'éthique ? Il faut du tact, vous me comprenez ? De la subtilité. Cherchez un nom plus inoffensif et conventionnel, voilà tout. Et attirant, si possible. Ce sont des primitifs. Faites-moi confiance, Monsieur Huppert. Les primitifs aiment les noms poétiques, légendaires. Sans compter que s'il doit rester quelque chose, il vaut mieux que ce soit, comment dire, un pseudonyme.
King jeta un coup d'œil autour de lui et son regard se posa sur la cheminée, sur Madame Huppert qui regardait le feu, sur moi qui le fixais, sur le champagne, sur l'ikebana au milieu de la table.
Par exemple,
dit-il à voix basse d'un ton insinuant, comme quelqu'un qui vient d'avoir une excellente idée.
Par exemple, commencer par leur vendre pour quelques millions de dollars de paradis céleste.
C'est à ce moment-là, précisément, que Giuseppe entra pour demander s'il devait servir le café. Dans quelques instants, dit madame, nous le prendrons près du feu.
Ça choque ? La première fois que je l'ai lu, j'avoue que j'ai vraiment saisi, lu et relu. Mais c'est énigmatique jusqu'au bout. Enfin, c'est... Et finalement, il ne cherche pas à être plus clair, Tavouki. C'est à nous.
Mais on a envie de trouver la suite.
Oui, bah, alors, moi j'ai lu, enfin on a lu autour de Tavouki à propos de cette nouvelle particulièrement, eh bien, pour lui, ça pourrait être aussi bien des hommes qui font le trafic des armes, de la drogue, des faux médicaments, des choses comme ça, et c'est comme ça qu'ils font leur fortune, quoi. Bon, et tout ça sous un décor, voilà, ça, c'est ce genre de personnage d'homme d'affaires et
et ça a plu à Tabouki de présenter leur extérieur d'une rare perfection esthétique. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Claude?
Il y a une perfection finalement où il y a de l'irréprochable. Mmh. Tout est parfait, irréprochable. Mmh. Et derrière cet irréprochable, en fait, c'est monstrueux. Quoi.
Ben voilà, mais tu as
apparemment aucun reproche n'est possible. Parce
que côté face, le raffinement, côté, oui. Côté pile, l'horreur, quoi. C'est...
Oui, l'exploitation, et le mépris de ces pauvres gens, évidemment, enfin, il y a des. Oui. Voilà.
Et même la dame de compagnie est méprisante vis-à-vis de la domesticité.
Ah oui, aussi, ça. Ça c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait cette jeune fille, c'est pas à hasard qu'elle ait été choisie par cette dame, Madame Huppert, parce qu'en fait elle a bien senti tout de suite qu'elle ne voulait qu'aspirer à ce monde-là, elle avait ça, c'était ça qui l'intéressait, donc de toute façon elle rentrait dans le jeu, hein, c'est sûr.
L'histoire. Être dans les mines, ce double sens d'être dans les mines.
Oh non, je pense qu'il n'y a pas de doute.
Parce qu'on est ingénieur des mines.
Oui, et alors justement, le papa devait être mineur, mais pour créer le doute, bah, il pouvait être ingénieur des mines. Il y a toute une espèce de louvoiement comme ça.
Elle le dit au début qu'elle dit des mensonges. Donc,
voilà, et elle le dit. Ah oui, elle nous prévient.
Ah ben, bah, on est prévenu, hein. Ouais. Elle enjolive certainement la
voilà.
Situation.
Et puis, donc, bah bien sûr, et quand elle dit que sa maman était au piano,
oui, oui.
La pauvre chérie, etc. Voilà.
Une tension du bus, une tension qui monte.
Alors oui, c'est ça aussi, la tension qui monte, qui est très intéressante, avec ces quand même moments... privilégié de grâce et de beauté, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont à rêver, quoi. Enfin, il n'y a rien d'exagéré dans la façon de décrire cet intérieur, par exemple. C'est, on le voit, on voit le raffinement, on sent. C'est pas
on a fait une petite coupure, hein. Enfin, on a
oui,
fait une
ah,
coupure
oui.
Dans le texte.
C'est,
hein.
Annick, c'est
on n'a pas lu, le texte en entier parce
non.
Qu'il y avait des.
Dit par exemple, que je ne sais pas.
Moi, je me souviens plus parce que ça fait. C'était... On a quand même préparé ça, voilà, 2 ans. Hein.
Alors, pendant presque. 2 ans, on s'en est pas occupé.
Ah oui,
mais
Covid
non.
Oblige.
Il est quand même très difficile de faire coïncider l'Ikebana et tout ce que ça représente au niveau culturel. Philosophie, ça, le fondement du Québec avec la mentalité des individus. C'est quand même difficile de faire coller l'un.
Oui, mais attends, il faut bien se dire que la femme, elle est là pour la beauté, pour le raffinement. C'est elle qui.
Oui, mais
qui...
de manière superficielle. L'Ikebana, c'est pas superficiel.
Eh ben voilà, mais elle n'a pas compris. Elle ne se l'intéresse pas.
C'est ça qui est intéressant.
Ah oui, parce que tu connais un peu la culture. Non, mais c'est intéressant. Tu dis, l'Ikebana, c'est quoi exactement pour les gens qui en font.
C'est les arts floraux, mais c'est pas décoratif. Il y a toute une démarche de bouddhisme zen derrière, comme le tir à l'arc, comme les grands. Un certain nombre, comme la poterie, mais pas la poterie ordinaire, ou la cérémonie d'été. Tout
oui.
Ça, ce sont des arts qui sont influencés par le bouddhisme zen.
Par la philosophie zen, c'est ça. Voilà, d'accord.
Alors,
oui.
Alors que
là,
c'est. Lumières
oui, mais là, c'est très superficiel.
Là.
On voit bien que.
On voit le côté purement décoratif,
purement,
purement joli, alors
oui,
que les Kavana, c'est pas ça.
Oui, mais je. T'avais d'accord. Peut-être que pour Tabouki, il a pris les Kavana parce que ça symbolise tellement. Une pure merveille esthétique, si tu veux, c'est quand même autre chose.
Oui, c'est un raffinement, mais avec une inspiration philosophique.
Mais tu as senti que ces gens-là, l'aspiration philosophique n'existait pas. Eux, c'est en surface. Lui, il gagne du fric, elle le dépense, et donc voilà. Et, Et puis, bon, ils n'ont pas
par rapport à la civilisation japonaise qui est représentée en partie par l'ikebana, ils font figure de primitifs. Ce sont.
Oui.
Ah, bravo!
Oui. Les primitifs par rapport à cette civilisation représentée par l'ikebana, qui est très évoluée, qui est pleine de symboles,
c'est encore plus cruel qu'il est. Voilà, parce qu'en fait, ils ne sont pas. Ce que tu veux dire.
On est toujours le primitif de quelqu'un.
De quelqu'un, voilà. Cette madame Huppert. Oui, il a dû jouer sur.
Non, je pense pas qu'il ait joué sur le mot parce que c'est écrit en italien, donc.
Oui, c'est un mot français. De toute façon.
En français entre Huppert.
Non.
Moi, ce que j'ai senti aussi, c'est qu'en fait, il y a une complicité permanente.
Entre eux.
Il y a une complicité, tout le monde participe au même jeu, c'est-à-dire de façade, irréprochable.
C'est pour ça qu'elle a été adoptée.
Oui, donc en fait nous, on semble découvrir quelque chose, mais finalement, on aurait pu le pressentir depuis le début, que derrière cette chose irréprochable, lisse, c'est pas possible ça.
Raffinée à l'extrême, tu veux dire c'est tellement trop...
Trop parfait.
Oh, il peut quand même y avoir des gens raffinés sans pour autant que.
Dans la perfection, il faut que tout soit.
Oui, c'est un excès.
Sans pour autant que le métier du mari soit celui d'un exploiteur.
D'un exploiteur, oui.
J'ai pensé à Madame Verdurin dans le tableau de Madame
Mouret. Oui, c'est un peu ça.
Alors, Madame Verdurin, elle avait une verdeur de langage qu'ici, on sent que tout est. Camouflé quand même, je veux dire, Madame Huppert doit parler très simple. On ne la voit pas faire des. Madame Verdurin fait pas mal de fautes de goût de langage, hein, quand même. Elle exagère, tandis que là, elle doit être aussi lisse. Comme le physique.
Dès qu'elle ouvre la bouche, le contenu est parfois un peu contestable.
Ben non, Madame Huppert, elle ne
parle
pas.
Elle ne parle pratiquement pas.
Elle ne parle pratiquement pas, Madame Huppert.
Non.
Mais quand la jeune fille est embouchée par
une littérature. Ah oui.
Oui, c'est-à-dire qu'elle ne parle.
Elle a un vernis.
Elle a un vernis et le goût de l'ikebana parce que ça fait chic de recevoir des gens en faisant un ikebana. Quoi.
Peut-être qu'elle aime. Elle a le droit d'aimer aussi.
Ben, elle a le droit d'aimer aussi. Enfin, ça a inspiré. Tabouki qui est vraiment... Oui, vous voyez là ce bouquin là, avec ses masques.
Mais tout d'un coup, il y a une violence, comme Delacour a eu son coup de téléphone.
Alors là,
oui, c'est ça, c'est
extraordinaire. Il est cassé, cet homme-là. Il est cassé, là. Il a compris, il est cassé.
Le texte change complètement.
Ouais.
Et puis, il est très sec. Et puis, à un moment, il ne se domine plus, ses veines gonflent.
C'est ça.
Il y a une espèce de crescendo qui est...
Oui. C'est ça aussi qui fait la force dramatique de ce racconto, comme disent les Italiens. C'est vrai. Pour lui, c'est le désastre complet, hein, de toute façon, pour cet homme-là. Je veux dire. C'est un nul. Il va être rejeté, mais c'est pas Tabouki qui le plaindrait, sûrement pas. Voilà.
Bien.
Mais vous connaissez cet écrivain, beaucoup d'entre vous. Il y a Pereira Prétan qu'on avait lu, ben, à la Dante aussi. Oui. Politique, ça. Écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés.